foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Claire Viguet. Merci Claire d'avoir accepté mon invitation à venir parler de votre foi, de vos convictions, de votre vie bien remplie entre le scoutisme, l'aide d'assistance maternelle et puis surtout, je crois que nous allons centrer notre entretien sur les cercles de silence, sur l'accueil ou le soutien des mineurs isolés, qui est un problème en ces temps de pandémie. Alors, nous nous sommes connus il y a assez longtemps quand nous faisions du catéchisme ensemble dans Anatole France et ça ne se fait plus. La laïcité a petit à petit fait baisser ce type de transmission de la foi.
Oui, en effet, j'avais été appelée par la responsable de l'aumônerie du collège Anatole France. C'était les aumôneries de collège de l'enseignement public. Qui m'a donné l'occasion d'ailleurs de me former à ce moment-là à l'IERP. Et pendant quelques années, oui, j'ai été animatrice au sein de cette aumônerie. Je crois qu'en effet, les aumôneries de collège n'existent plus actuellement.
Les locaux étaient
à côté,
dans la paroisse, mais nous avions la possibilité non pas de faire du prosélytisme, mais
non,
de l'information.
Mais chaque année, nous allions voir le principal du collège. C'était une obligation des principaux de collège que d'informer les élèves de toutes les sources, enfin de tout ce qui existait du point de vue religieux, aussi bien enfin, si les protestants ou les juifs ou les musulmans voulaient faire une annonce du même type, c'était tout à fait légal.
L'éducation nationale est devenue un peu frileuse, dirons-nous, mais c'est toute la question dont beaucoup parlent de la spiritualité dans les établissements scolaires. Alors, la spiritualité, vous l'avez trouvée, vous l'avez pratiquée auprès de vos enfants avec le scoutisme. 6 enfants,
oui.
Et puis un engagement fort.
Voilà, oui. Moi-même, j'avais été Jeannette étant jeune, puis cheftaine de Jeannette. Et quand les enfants étaient petits, assez vite, on leur a proposé de faire partie du mouvement, qui était d'abord, quand nous étions à Paris, c'était un mouvement scout de France, en fait, mixte pour nos filles. Et puis quand nous sommes arrivés à Toulouse, nous avons poursuivi, mais chez les guides de France, puisqu'elles voulaient toutes, elles préféraient être dans des groupes de filles, non mixtes. Voilà.
Oui, c'est un choix.
Et donc, assez vite, elles ont fait partie, ensuite notre fils aussi, du groupe de scouts des Dominicains, ce qui m'a donné l'occasion après d'être pendant 5 ans, je pense, responsable du groupe des guides de France chez les Dominicains.
Vous parlez de vos filles, mais nous enregistrons aujourd'hui, ce sera rediffusé dans un peu plus longtemps. Nous fêtons Sainte Scolastique. J'aime beaucoup parce que c'est la sœur de Saint Benoît et on sait tout de l'intérêt, lorsque les hommes fondent des monastères, de cette attirance des sœurs. Et vous vous appelez Claire et vous êtes franciscaine.
Oui, avec mon mari, nous faisons partie d'une fraternité laïque, oui. Oui.
Vous étiez tombée dans l'eau bénite quand vous étiez petite ?
C'était peut-être un signe, mais on l'a découvert seulement une fois à Toulouse. Oui.
Et puis avec l'éducation des enfants, la transmission de la foi, nos convictions changent. Les problèmes de société sont
sûrement.
Là.
Oui.
Oui. Après le scoutisme, changement d'engagement.
Oui, c'est le moment où j'ai repris du travail.
Les enfants sont grands, donc il faut penser
voilà,
peut-être.
Les enfants, plusieurs étaient déjà partis de la maison. La petite dernière était à l'école primaire. Et j'ai eu envie de reprendre une activité salariée en dehors de la maison, voilà. Et étant donné l'âge avancé que j'avais déjà, mon goût pour les enfants, parce que c'était ça finalement qui me tenait, j'ai décidé de devenir assistante maternelle. Et c'est un métier que j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années. Voilà, avec énormément de plaisir, de voir ces petits de 0 à 3 ans
Oui, mais les enfants, ils vous quittent. Chaque fois, il y a une sorte d'arrachement.
Oui, mais c'est tellement magnifique de les voir grandir. C'est l'âge où ils découvrent tellement, tellement de choses. Voilà, maintenant, on se régale. Oui, on sait qu'ils vont nous quitter, mais c'est moins douloureux quand ce sont nos propres enfants. C'est... Non, et puis ils partent pour rentrer à l'école. C'est bien. Il faut que les choses avancent, oui.
C'est la jeunesse, c'est l'enfance, c'est l'avenir.
Et puis c'est le moment où c'est bien pour eux qu'ils aillent à l'école. Non, on sent qu'ils ont besoin aussi, c'est normal. Non, il faut... Après, ça n'empêche pas de garder des relations. Il y en a que je revois toujours, des parents avec qui je suis devenue amie.
Mais ça, c'est un travail salarié, alors que maintenant, vous faites un travail de bénévole qui vous prend encore plus de temps. Et c'est la maison d'accueil de l'hôpital.
Oui. Je suis présidente de l'association qui gère la maison d'accueil à l'hôpital de Rangueil, oui.
Un appel ? C'est une vocation ? C'est quelqu'un ? C'est Dieu qui vous a appelé à faire ça, dans la charité ?
Oui, on peut peut-être y voir Dieu, je ne sais pas. J'y faisais du bénévolat régulièrement pour accueillir les personnes qui arrivent. Et voilà, petit à petit, j'ai été amenée à faire partie du bureau et je me suis retrouvée présidente sans l'avoir vraiment demandé.
Oui, des responsabilités qui arrivent.
Voilà, tout à fait.
Et chacun répond.
Un peu compliqué en ce moment parce que, comme tout le monde, on souffre de
la crise.
Oui.
Il faut répondre autant aux parents, alors, à ceux qui sont...
Nous accueillons, alors, du fait que c'est à Rangueil, nous n'accueillons pas de famille d'enfants. Les enfants sont soignés à Purpan. Donc, nous accueillons des patients qui viennent se faire soigner et qui logent chez nous en étant en hôpital de jour. Ou, en temps normal, le gros de l'activité, c'est les personnes qui viennent voir des malades à l'hôpital. Mais c'est notre grosse difficulté actuellement, c'est que les visites sont interdites. Donc, ces personnes-là ne viennent pas. Plus ou très peu de temps.
Déjà en temps normal, il y a des difficultés institutionnelles entre les différentes fonctions dans l'hôpital.
Pour nous, c'est pas un souci. Pour nous, c'est pas un souci. Les relations, voilà, on est maison d'accueil et on a de très bonnes relations avec les services. C'est pas le souci. Mais le problème actuel, c'est le fait que les visites sont interdites pour des questions sanitaires. Et que du coup, les gens n'ont plus de raison de venir chez nous.
Comme dans les EHPAD.
Et malheureusement, nous avons quand même 6 salariés qui sont là 24 heures sur 24 et que nous devons rémunérer. Donc, demande une certaine activité.
Et la solitude aussi.
C'est très difficile pour les quelques résidents qui viennent. C'est très douloureux pour eux de ne pas pouvoir aller visiter leurs malades. Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr.
La prière vous aide ? Vous avez apporté la prière de François ? Modèle pour notre vie, pour votre vie. Et il parle de ce silence, le silence peut-être autant de la situation due au coronavirus, mais aussi le silence de ces enfants qui sont dans les centres de rétention administrative, ces mineurs isolés dont vous allez nous parler dans la deuxième partie. Peut-être pouvons-nous faire déjà cette prière qui nous aide en ces moments de... où nous ne savons pas quoi faire. Et François dit, Seigneur, dans le silence, je viens te demander la paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage.
Voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes yeux à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long du jour, je te révèle.
C'est la prière de François, et vous avez apporté cette mélodie du Nouveau Monde de Dvorak que vous allez commenter après.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Ce soir, avec Claire Viguet, vous êtes mère de famille, grand-mère. Vous avez fait du scoutisme, du bénévolat comme assistante maternelle. Vous êtes travaillé comme bénévole dans la maison d'accueil de l'hôpital de Purpan et nous allons parler des cercles de silence. D'abord, pourquoi avoir choisi cette musique du Nouveau Monde ?
Alors, on pourrait voir un clin d'œil avec ce Nouveau Monde dont on nous parle tellement en ce moment, mais en fait, ça n'a rien à voir. Dvorak était donc allé aux États-Unis et c'est un compositeur que j'aime énormément, que j'ai appris à connaître grâce à mes enfants, qui faisaient du violon. Et donc, hongrois, il a écrit des choses magnifiques pour les cordes. Et ce que je trouve magnifique dans cette musique, qui, outre qu'elle moi, elle m'émeut énormément, c'est de voir comment Dvorak a su découvrir à la fois les musiques indiennes, les musiques afro-américaine et comment il a pu s'en inspirer et faire un mix avec ce qu'il connaissait déjà des musiques de son pays. Et je trouve magnifique de voir comment il a su comment il s'est enrichi des cultures des autres. Et c'est tellement ça la vie, c'est de s'enrichir de ce que les autres peuvent vous apporter. Quand vous allez à l'étranger, il a découvert un nouveau monde et il a su le transposer avec ce qu'il connaissait lui de son folklore et nous rendre des œuvres magnifiques.
On est tout de suite plongé dans cette question de la diversité, de l'accueil des migrants.
Voilà, et tout se rejoint, oui.
De ces centres de rétention administrative. Vous avez choisi comme photo pour mettre sur le site, justement... la place du Capitole. Alors, avant de redire l'histoire avec Alain Richard, je pense que c'est important de dire que ce n'est plus le dernier mardi de chaque mois à 18h30, puisqu'il y a le couvre-feu, mais...
momentanément, enfin, tant qu'il y a le couvre-feu, nous le faisons le dernier mercredi du mois à 12h30, de 12h30 à 13h30.
Alors certains jeûnent, d'autres viennent prier, mais d'autres sont tout à fait laïques.
Chacun vient, c'est la particularité d'un cercle de silence, c'est que chacun peut venir avec
ses propres convictions,
on n'a pas à les partager et ce n'est pas source de dispute, voilà.
Et ce n'est pas non plus pour inciter à la haine contre une administration quelconque ou contre telle ou telle mesure administrative, tout en dénonçant comme l'UNESCO ou comme l'UNICEF ou comme d'autres institutions, l'espace généraux des migrations que nous avions reçu l'année dernière deux ou trois fois, parce que certains pensent qu'il y a une forme d'injustice, qu'il y a un excès d'autorité, mais il n'y a pas de solution.
Et nous ne prétendons pas avoir la solution, absolument pas. Mais je pense que quand les franciscains ont lancé ces cercles de silence, puisque ça a démarré à Toulouse en 2007, à l'initiative des franciscains, ils étaient interpellés par le problème qui existait bien sûr déjà à l'époque des migrants. Et ils ont cherché une façon... Sachant qu'il y avait ce centre de Cornebarieux, donc aux portes de Toulouse, qui leur semblait parfaitement, je pense qu'ils ont trouvé tout à fait inhumain, comme nous le trouvons nous aussi, d'enfermer des personnes parce qu'elles ne sont pas en situation régulière du point de vue des papiers, ce qui n'est quand même pas un délit. La loi le rappelle, entrer en France illégalement est un délit. Mais par contre, être en France depuis plusieurs années, avoir des papiers qui ne sont plus valables et à l'occasion, quand on les fait refaire, se faire dire que les papiers ne sont plus valables. Oui, bien sûr, ça peut arriver, mais...
Parce que la loi change.
La loi change.
Ou parce qu'ils ne peuvent pas répondre au bon moment.
Et ne pas avoir ces papiers n'est pas un délit. Ces personnes-là ne sont pas dangereuses pour la population. Elles n'ont pas volé. Et donc, c'est ce traitement d'enfermement contre lesquels ils voulaient lutter. Et étant franciscains, la solution la plus qui leur est venue très vite à l'esprit, a été une action non violente. Et c'est pour ça qu'ils sont pris le parti de faire ces cercles de silence pour pouvoir réunir des personnes de sensibilités différentes.
Au-delà des mots.
Au-delà des mots, de façon parfaitement non violente.
Le silence est une stratégie pour se faire entendre.
Pour dénoncer l'acte lui-même, mais bien sûr pas du tout les personnes. Alain Richard, qui était à l'origine de cette action, insistait toujours très vivement là-dessus. Nous ne sommes pas là pour dénoncer quiconque, ni les préfets, ni les policiers, ni qui applique une politique. C'est la loi elle-même qui nous semble mauvaise. Mais par contre, quand nous faisons ce cercle, nous pensons tout autant aux personnes qui sont enfermées dans le centre de Cornebarieux qu'aux personnes qui ont à appliquer la loi. C'est sûrement parfois très difficile pour eux aussi.
Et se pose la question, que vivent ces personnes à ma porte? Et il y a plus de 100 cercles de silence dans toute la France.
Oui, ça a essaimé dans toute la France et à l'étranger. Il y en a à l'étranger aussi.
Le silence est aussi une préparation intérieure à des formes plus radicales d'engagement. Alors, chacun, en conscience, pourra continuer dans telle ou telle association.
Tout à fait.
Et nous savons aussi que on peut s'informer. Je ne savais pas, mais le blog franciscain, tout attaché, franciscaintoulouse.fr, donne des informations
Franciscain
régulières.
Franciscain Occitanie, oui. Franciscain Occitanie, le nouveau blog maintenant, oui.
D'ailleurs, il y a un comité dont vous faites partie
qui
réfléchit pour savoir justement quelles sont les possibilités de maintenir. Alors, ce n'est plus 200 personnes qui se réunissent, c'est plutôt 45, 50 selon le froid et la pluie. Mais
nous tenons quand même parce qu'on se rend compte à chaque fois que les passants ne sont pas informés bien souvent. On apprend à beaucoup de gens qu'il y a un centre de rétention. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un centre de rétention bien souvent. Ils savent encore moins qu'il y en a à Cornebarieux. Et donc c'est important pour nous cette information, oui.
Et vous avez apporté un texte qui fait la théorie à la suite d'Alain Richard de ce mouvement de protestation silencieuse.
Oui, enfin, disons que Stéphane Delavelle, qui était un des jeunes franciscains à l'époque qui a fondé avec Alain les cercles, avait donc fait tout un texte pour expliquer à la fois cette démarche silencieuse, ce que le silence peut apporter, est-ce que la lampe que nous mettons au milieu du cercle de silence veut dire aussi, parce que beaucoup de gens se posent cette question.
Trouver du sens, oui.
Voilà.
C'est très rare d'ailleurs les personnes qui traversent le cercle.
Oui, on les impressionne.
Habituellement, on fait un détour et se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est important de le signaler. Mais pourquoi un jeune ou une jeune n'a pas les mêmes droits en fonction de sa nationalité? Ou bien pourquoi on nous traite comme des menteurs ou des fraudeurs ou des fraudeuses? Et donc, plus précisément, bon, il n'y a pas que des mineurs isolés, mais des étrangers ou des étrangères qui sont mises dehors par le conseil départemental. Alors, parfois, ils sont placés dans des hôtels, mais ce n'est pas non plus une solution. Et puis, au sortir de ce centre de rétention administrative, se pose aussi d'autres questions de l'accueil. Le cercle des voisins,
le cercle des voisins, qui est d'ailleurs régulièrement présent au cercle de silence, ils font un énorme boulot qui est très important. Parce qu'il faut savoir que quand les personnes qui sont au centre de rétention, après une décision du juge, sont jugés libres. Enfin, non,
il est libre, mais doivent quitter le territoire.
Pas forcément, non. Ah non, si elles doivent quitter le territoire, ça on les met dans un avion, on la fait quitter le territoire. Non, le problème qui concerne plus le cercle des voisins, c'est les personnes qui sont relâchées parce que tout compte fait, il n'y a aucune raison de les renvoyer dans leur pays ou qu'il n'y a pas de possibilité de les renvoyer dans leur pays. Pour des raisons X ou Y, parce que il n'y a pas d'accord, parce que le pays ne les reconnaît pas. Donc, le juge constate qu'on ne peut pas les renvoyer, donc on les laisse sortir. Mais on les laisse sortir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et sans argent, au bout des pistes de Blagnac, sur une route déserte, Et c'est là qu'intervient le cercle des voisins, qui est prévenu, qui va les chercher, qui les accueille, qui les remet dans un train s'ils doivent repartir, parce qu'ils ne sont pas du tout forcément toulousains, bien sûr. Bien souvent, on enferme à Cornebarieux des gens qui viennent de Brest ou de Strasbourg, de Lille ou de Marseille, n'importe. Enfin,
certains ont parlé de rafle. Est-ce que ce n'est pas abusif de parler de ce terme très fort?
Oui, alors il faut être très méfiant avec ce genre de terme.
Dans certains coins de Toulouse.
Il faut être très méfiant parce que on a vite fait d'employer des mots qui dépassent les pensées parfois. Mais non, ce n'est pas des rafles.
Ou de dire qu'il y a des complots.
Il y a pas des... Non,
oui.
Non, non.
Oui, mais de dire aussi que les enfants, si les enfants viennent sur le territoire, après il y aura regroupement familial et c'est une porte ouverte sur l'immigration.
Oui, bien sûr. Mais il est certain que les migrants vous le diront tous. Il est certain qu'il y a des quartiers qu'ils évitent. Ils évitent le quartier de la gare parce qu'ils savent qu'ils sont en danger. Ils éviteront. Ils ont souvent des problèmes quand ils vont à la préfecture refaire des papiers ou voilà. C'est là que parce qu'il faut savoir que dans ces centres de rétention ne sont pas enfermés les gens qui viennent d'arriver de façon illégale en France. Ça peut arriver, mais c'est pas la majorité. La majorité sont des personnes qui sont en France depuis déjà un certain nombre d'années, qui ont parfois leur travail, qui sont arrivés parfaitement légalement en France, mais entre-temps, leur situation a changé, ou il faut qu'ils fassent renouveler leur carte de séjour, et c'est là que le problème peut se poser, ou puis les lois changent, et c'est là qu'ils deviennent tout d'un coup illégaux, parce qu'on leur refuse un titre de séjour qu'ils avaient jusqu'à maintenant.
Alors, bien sûr, il y a des chiffres qui circulent, mais c'est sûr que les chiffres ne disent pas grand-chose. De janvier à juillet 2019, le centre de détention reconnaît avoir 95 jeunes. Le collectif Autonomie compte 130 jeunes. Bon, il y a des batailles de chiffres parce que de toute façon, ils vont sortir à un moment donné. Certains vont peut-être rentrer de nouveau.
Oui.
Mais je voudrais rappeler l'UNICEF qui dit que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas une option. Il y a des règles en France.
Ah, il est
tout
des règles internationales. Les enfants ne devraient pas être enfermés. Or, on en a eu au centre de rétention de Cornebarieux. Oui, bien sûr. Ouais. La France se fait régulièrement taper sur les doigts. Ouais.
C'est pour ça que les
ça
citoyens.
Ne change rien.
Les
ça citoyens. Ne change rien.
Alors, pourquoi vous continuez si ça ne change rien?
Parce qu'on a toujours l'espoir, hein, heureusement. Heureusement,
d'améliorer.
La petite lampe qu'on met, là, elle est aussi signe d'espoir. Hein, qu'un jour ou l'autre, oui, on arrivera à dialoguer et à faire avancer un peu ces lois. Mais.
Et vous pensez peut-être comme le psaume 31, c'est un psaume qui dit combien. Dieu est pour certains un refuge, quelle que soit d'ailleurs la religion. Pense à certains musulmans de grande confiance ou certains mystiques. Et le psaume 31, je peux le redire ici, tu es un refuge pour moi. Tu as mis dans mon cœur des chants de délivrance et tu m'as entouré. Alors, on retrouve là la spiritualité franciscaine de François qui va vers le plus pauvre, vers le lépreux, vers celui qui est mis à l'écart.
Oui, il est certain que, enfin oui, les franciscains étaient tout spécialement adaptés à fonder les cercles de silence, c'est sûr, oui. L'appel vers l'étranger, vers le pauvre, oui.
Il y aurait tout un chapitre aussi à dire sur votre engagement dans l'Église, dans les paroisses où vous êtes, l'Église de l'Espérance, et comment les paroisses sont ouvertes, plus ou moins, à ces questions, et comment nous faisons la paix aussi à l'intérieur de notre Sainte Mère l'Église, l'Église catholique, ou d'autres courants plus ouverts peut-être, comme la CIMADE, les protestants et d'autres...
Le comité de pilotage dont vous parliez tout
il
à l'heure
laïque,
du centre, et surtout il est œcuménique puisque nous,
il y a Mino que nous avons accueilli.
Il y a à la fois des catholiques, des protestants et avec qui on travaille avec beaucoup de plaisir. Oui, c'est une très
également
c'est
le comité contre la faim, comité catholique contre la faim pour le développement, qui rappelle ce que dit le pape François. Nous habitons tous la même maison. Et qui nous incite, comme le dit le pape François dans la Laudato Si, délivre-nous de nos peurs, de nos sentiments d'isolement, transforme-les en espoir et en fraternité, afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur. Nous sommes en période de carême.